Nul doute qu'ici, le bonheur est fondé sur le roc.
Et pas n'importe lequel, professeur Cassadilida. Ces roches du bouclier canadien ont 2,7 milliards d'années.
Hein?
Je vois toujours l'Abitibi en noir et blanc, tant elle se prête mal au monde des couleurs. Il se pourrait même qu'elle relègue la couleur au rang des facéties modernes. Mais il faut dire que l'Abitibi est une pierre très ancienne. Pour elle, la modernité remonte au Crétacé supérieur. Il est normal qu'elle nous rappelle que, dans la nuit des temps, le monde était vraiment noir et blanc.
Au niveau du sous-sol de Rouyn-Noranda,
Gaétan Lessard,
on est sur le bouclier canadien. C'est le fruit d'un volcanisme principalement sous-marin. On remonte à quelque chose comme 2,7 milliards d'années. Au parc Aiguebel, à certains endroits, on peut même voir des coussins de lave qui se sont refroidis au contact de l'eau. Un bel exemple de roche ignée du bouclier canadien. En Abitibi-Témiscamingue, on a le socle rocheux qui est d'origine volcanique. Ensuite, il y a des éléments sédimentaires dans le paysage, le mont Chaudron, les collines Kekeko, qui sont venues après la formation du bouclier, dans la période où le bouclier était sous les océans. Des roches sédimentaires, c'est une accumulation de roches produites par l'érosion des autres roches. Okay? Après ça, ben, on a eu les épisodes glaciaires.
Sur le plan géomorphologique,
Roger Larivière,
on est dans une péniplaine parce que le relief est presque plat, parce qu'on est une grande région qui a été rabotée en quelque sorte par plusieurs glaciers. C'est un poids énorme. La glace, des fois, 1 km, 2 km d'épais.
Et après la glaciation, on a donc été submergé par un lac proglaciaire, le lac Ojibwe-Barlow. On estime à peu près que le lac s'est maintenu sur le territoire environ 2000 ans. On avait des eaux qui s'accumulaient entre une ligne de partage des eaux et un barrage formé par une moraine et un glacier qui était du côté nord, vers où s'écoulaient les eaux, mais qui bloquait la sortie. Donc, quand la sortie s'est libérée, lorsque le glacier a assez fondu, qui a libéré la baie James et la baie d'Hudson, ben, les eaux ont suivi leur cours. La glace s'est véritablement retirée il y a à peu près 8000 ans, et rendue à notre latitude. Les eaux d'un glacier, ce sont des eaux extrêmement turbides, chargées en matériaux. Donc, ça a laissé dans nos lacs beaucoup d'argile, le lac Opasatika, le lac d'Asra. Et aujourd'hui, les rivières qui les alimentent continuent à entailler des dépôts d'argile, donc maintiennent nos lacs à un niveau de turbidité quand même assez élevé, sauf s'ils sont alimentés par des sources souterraines. Cette turbidité-là, du côté de l'Abitibi, nous aide au niveau de l'acidification des lacs. Parce que les eaux turbides s'acidifient moins rapidement que les eaux plus limpides. Ensuite, s'il y a une certaine contamination dans certains lacs, soit par activité humaine, parce qu'à une certaine époque, l'exploitation minière, on s'est beaucoup servi de lacs pour recevoir les résidus, et malheureusement, ben, ça a contaminé certains lacs. Mais les eaux turbides, la matière en suspension, qui tranquillement se dépose au fond, a quand même pour effet de trapper les métaux lourds, puis de finalement les capturer au fond. Donc, finalement, l'argile, c'est un bienfait. En Abitibi-Témiscamingue, on a une ligne de partage des eaux. Donc, une ligne qui définit que d'un côté, l'eau s'en va vers le sud et le golfe Saint-Laurent, et d'un autre côté, s'en va plutôt vers le nord. On est vraiment à la tête de deux grands bassins. Alors, sur le territoire de Rouyn-Noranda, si on part de la frontière ontarienne, les eaux au sud du mont Chaudron coulent vers le Saint-Laurent. Ceux au nord, le lac Labyrinthe, le lac d'Asra et tout ça, coulent vers le nord. Et ça suit sensiblement la route 117. Après ça, on continue. La ligne de partage des eaux va traverser au milieu du parc Aiguebel. Vous avez des sentiers qui vous permettent de franchir la ligne de partage des eaux et de vraiment faire le pas qui vous fait passer d'un bassin à un autre.
L'Abitibi nous dit que la profondeur de la terre vaut bien l'immensité de l'océan pour qui cherche le cœur de quelque chose.
La région de Rouyn-Noranda est localisée dans le milieu de cette grande zone écologique-là qui s'appelle la forêt boréale. La zone de végétation dans laquelle on est autour de Rouyn-Noranda, c'est une sapinière à bouleau blanc. Et la raison pour laquelle on est dans cette zone-là, c'est que le sapin baumier pousse très vite, même après une perturbation. Là, il faut savoir qu'aussitôt qu'il y a un changement dans l'environnement, qu'on a un feu, un déboisement qui va être fait par une compagnie forestière, le sol est mis à nu, il y a des plantes herbacées qui vont venir s'installer, mais il y a des arbres qui ne poussent qu'en pleine lumière. Le peuplier faux-trempe, c'est une des essences qui vient s'installer très rapidement. Le bouleau aussi, ça pousse juste après une perturbation. Alors, chez nous, c'est pas compliqué. La compréhension de l'environnement, quand on est sur un sol sableux, s'il y a une perturbation, c'est le pin gris qui va aller s'installer de façon préférentielle. Si on est sur un sol argileux, ça va être le trempe et le bouleau, mais surtout le peuplier faux-trempe. Puis à quelques endroits, on va voir par la suite, en sous-bois, se développer de l'épinette blanche. L'épinette blanche et l'épinette noire sont des essences qui ne poussent pas en premier. Elles supportent l'ombre et à un moment donné, les trempes ou les pins gris, quand ils sont très vieux, ils meurent. Bonheur total!
La dureté a ses vertus. Elle met l'humanité à l'œuvre. Là, c'est écrit le traité des épreuves. En Abitibi, toutes les aurores sont boréales et tous les crépuscules rabaissent le caquet des dieux. Ce n'est pas un pays, c'est une leçon d'humilité.